There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Nous sommes aujourd'hui à Urugne, chez nos partenaires de Médias Basques, l'occasion de saluer nos auditrices et auditeurs du Pays Basque, et en particulier à Anglet, qui est la ville de ce territoire où nous sommes le plus écoutés. Nous vous proposons un double épisode après la première partie d'aujourd'hui. La seconde partie sera diffusée demain. Nous allons évoquer un monument du sport basque, le Biarritz Olympique, un club à la dérive depuis près d'une décennie. Nous nous appuierons notamment sur le dernier article que vous ayez écrit sur le sujet, qui s'appelle « La ville de Biarritz revoit son projet pour Aguilera ». Bonjour Willy Roux.
Bonjour.
Willy, vous êtes donc journaliste pour notre partenaire Médias Basques et vous traitez notamment du rugby. Nous allons longuement revenir sur l'histoire et en particulier récente du Biarritz Olympique, le BO. Mais en deux mots d'abord, que dit votre dernier article au sujet du stade Aguilera ?
C'est un article qui précise l'idée de la municipalité de Biarritz de changer de stratégie sur l'aménagement de ce plateau d'Aguilera, c'est-à-dire de faire sans le Biarritz Olympique, mais uniquement avec la communauté d'agglomération du Pays Basque. Le but est de faire des logements en compatibilité avec le plan local d'urbanisme. Cet article, je l'ai écrit quelques semaines après un autre article sur la délocalisation du Biarritz Olympique Pays Basque, une idée qui a été émise par Jean-Baptiste Aldiger et qui a fait bondir la mairie, qui cherche à répondre d'une autre façon à Jean-Baptiste Aldiger.
Oui, on va revenir sur tout ça en détail. Hein. Le plateau Aguilera, c'est évidemment là où se trouve le stade Aguilera, qui est bien sûr le stade du Biarritz Olympique. Pour bien comprendre la polémique donc, entre la mairie et les dirigeants du BO, il est nécessaire de revenir en arrière. Un mot d'abord sur la place du BO dans le rugby français. 5 fois champion national, c'est un monument, je le disais, qui a donné d'immenses joueurs à la sélection.
Oui, le Biarritz Olympique, c'est un club plus que centenaire, fondé en 1913. Il a remporté 5 fois le championnat de France, bon, en 1935 et 1939, mais plus récemment, il a marqué les esprits en 2002, en 2005, en 2006. Ça en fait le 3e club le plus titré au niveau national depuis le début de l'ère professionnelle, derrière le Stade Toulousain et le Stade Français. Évidemment, de très très grands joueurs français ou basques sont passés sous les couleurs des rouges et blancs, à commencer par l'immense Serge Blanco, mais aussi Pascal Ondarts, Patrick Lagisquet, Thomas Lièvremont, ancien sélectionneur, encore Damien Traille, Jérôme Thion, on peut citer Dimitri Yachvili, Emmanuel Arinordoki, Serge Betsen, Thierry Dussautoir, ancien capitaine du 15 de France encore ces dernières années.
C'est aussi un club très populaire dans la région, hein, avec Bayonne, c'est vraiment les deux clubs qui symbolisent le rugby basque.
Oui, l'aviron bayonnais, autant que le Biarritz Olympique aujourd'hui, sont les deux clubs phares du Pays Basque. On a la chance d'avoir sur un territoire quand même restreint, les deux villes sont voisines, hein, il faut se rappeler qu'elles se touchent, hein, à quelques kilomètres, deux grands clubs de rugby qui illustrent parfaitement, on va dire, l'identité du rugby basque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'aviron bayonnais, donc en top 14, remplit son stade à quasiment tous les matchs. Ce n'est plus le cas du BO depuis quelques années, depuis qu'il est retombé en Pro D2, mais les deux clubs ont vraiment des supporters, des groupes de supporters identifiés et une rivalité en tout cas qui est très vive, surtout ces dernières années où les deux clubs ont évolué pendant plusieurs années au même niveau en Pro D2.
La Pro D2 qui est donc la deuxième division. Alors venons-en maintenant à l'histoire récente du BO. En 2012, Biarritz gagne la petite Coupe d'Europe, mais c'est le début d'une dégringolade. Hein.
Oui, en 2012, il gagne pour la première fois une Coupe d'Europe, la Challenge Cup, donc face à Toulon. Et en 2010, auparavant, il avait échoué face au Stade Toulousain à remporter la Grande Coupe d'Europe. Et deux saisons plus tard, le BO donc redescend en Pro D2, avoir terminé dernier du championnat. Et souvent, bon, pour un club de rugby ou même un autre club dans un autre sport, une descente est synonyme de perte de revenus, de perte financière. Et Et de ce côté-là, le club de Biarritz n'a jamais réussi à se relever vraiment, et il n'a jamais réussi à remonter au plus haut niveau, contrairement à son voisin bayonnais qui joue depuis deux saisons en top 14.
Et en parallèle de la chute sportive, dans la coulisse, l'ambiance est tendue. Il y a d'abord ce projet de fusion avec Bayonne, justement, qui échoue. Par qui était-il porté et quelle était cette idée ?
Alors, ce projet de fusion, il est né en 2015, pour la première fois. Il était porté par Manu Mérin, président de l'Aviron Bayonnais, et Serge Blanco, qui à l'époque était président du Biarritz Olympique. Et l'idée avait tout de suite provoqué des levées de boucliers de la part des supporters, des sociaux de l'Aviron Bayonnais et des supporters du BO. Manu Mérin, à l'époque, a même reçu des menaces auprès de sa famille, à son domicile, ce qui l'avait beaucoup affecté et qui avait remis ce projet à plus tard. En 2018, une seconde fois, le projet de fusion est porté ce coup-ci par Francis Salagoiti, le président du conseil de surveillance de l'Aviron Bayonnais, et Christian Devez, le président du territoire et actuel maire de Cambo-les-Bains. Ils avaient relancé cette idée avec Nicolas Brusque, le président du BOPB. Très vite, cette idée n'a pas été non plus validée, et même Nicolas Brusque a perdu son poste de président quelques jours plus tard. Il a été évincé par les actionnaires majoritaires. À ce moment-là est arrivé donc Benjamin Gufflet comme président du BO, et lui a mis tout de suite un terme à l'idée d'une fusion entre les deux clubs. L'idée de fusion, et c'était pour répondre à ta question au tout départ, c'était de créer un grand club basque en mélangeant les meilleurs joueurs et également un grand club basque au niveau de la formation. Sachant que les deux clubs végétaient en Pro D2, on voulait créer une entité qui pouvait jouer au plus haut niveau en se disant, bon voilà, on a un territoire, on pourrait regrouper les moyens, regrouper les moyens financiers également. Mais il faut savoir que les deux clubs sont quand même très indépendants. Il y a deux stades et il y a surtout des supporters et deux philosophies un peu différentes quand même au sein des deux clubs, ce qui fait que le projet n'a jamais vraiment matché.
Et un derby mythique.
Et un derby mythique, oui. Souvent, le derby suscite beaucoup de ferveur auprès des supporters, auprès des joueurs également, et qui passent des jours à préparer cette rencontre entre les deux clubs. Bon, depuis deux ans, on n'en a plus, mais moi, j'ai pu en voir un il y a maintenant, oui, trois ans, et c'était assez extraordinaire, ce stade qui s'enflamme pour les deux équipes et les supporters aussi qui se chambent. C'est assez intéressant.
En 2016, le club est au plus mal et pour des raisons financières, il est au bord de la relégation en Fédéral 1, la 4e division, rebelote en 2018. À ce moment-là, on a l'impression que le BO ne parvient pas à se sortir du pétrin.
Oui, c'est ça. Le problème financier commence en 2015. Et à cette époque-là, c'est Serge Kampf qui a mis la main au portefeuille pour sauver le club de la rétrogradation. Et en mai 2018, la situation revient également au sein du Biarritz Olympique, puisque la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, va rétrograder une nouvelle fois le club en Fédéral 1. Il manquait à peu près 1 million d'euros pour boucher le budget, malgré les apports du duo donc Gufflet-Ledoux, à l'époque à la tête du club. Et à ce moment-là, la famille Gave, donc père et fils, Charles et Louis-Vincent Gave, dont on va parler un petit peu plus tard, va proposer d'investir dans le club à une condition, c'est de prendre les rênes de ce club. Au départ, les dirigeants ont refusé, la famille Gave s'est retirée et sans solution pour trouver un financement, finalement la famille Gave a été rappelée au dernier moment pour enflouer les caisses du Biarritz Olympique qui accuse à peu près tous les ans entre 1 million et 2 millions et demi de déficit qu'il faut combler chaque année. Donc c'est compliqué.
Oui, justement, un mot sur la famille Gave qui devient, vous l'avez dit, actionnaire majoritaire du club en 2018. Le fils Louis-Vincent est nommé président du directoire et le père Charles est le financeur véritable, en tout cas du BO. Il est aussi une figure d'extrême droite, adepte de la théorie du grand remplacement.
Oui, Charles Gave est vraiment le véritable aujourd'hui financeur du Biarritz Olympique. C'est lui qui a mis, on a du mal à l'évaluer, mais près de 10 millions d'euros peut-être dans le club depuis qu'il est arrivé en 2018 afin qu'il puisse survivre. Et il est connu pour ses positions, oui, un petit peu d'extrême droite. Il s'est rapproché un temps du mouvement de Dupont-Aignan, Debout la France. Et récemment, un article de Média Basque d'ailleurs relate son soutien à Génération Identitaire. Donc il ne se cache pas d'être plutôt conservateur. Oui.
Soutien affiché puisqu'il avait pris la parole lors de la manifestation de ce mouvement d'extrême droite à Paris il y a quelques semaines.
Hein. C'est exact.
C'est aussi cette année-là, en 2018, que sous l'impulsion de la famille Gave, Jean-Baptiste Aldiger devient président du BO. Qui est ce trentenaire au parcours pour le moins atypique ?
Alors Jean-Baptiste Aldiger, c'est tout d'abord un joueur de rugby. Hein. Il a été troisième ligne, passé par le SU Agen. Il est passé par la section paloise, dans les rangs du Stade Bordelais en Pro D2. Il a une petite carrière de rugbyman. Hein. Mais c'est surtout un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a été formé notamment au marketing chez les Harlequins, un club anglais. Puis après, qui est parti donc à Hong Kong fonder une société qui s'appelle Team One Asia. Et cette société est une agence d'événementiel et de marketing sportif. Et avec cette société, il organise des événements autour du rugby en Asie. Il fait venir, par exemple, des clubs comme le Racing Métro, le Stade Toulousain, faire des tournées promotionnelles. C'est également une agence de voyage. Bon, il mélange plusieurs activités au sein de cette entreprise. Il est également investi à Hong Kong dans un club local, le Valley RFC. Et il a également joué pour Hong Kong en tant qu'international. Petite anecdote, quelques matchs, je crois. Et c'est là, surtout, à Hong Kong, qu'il va rencontrer la famille Gave, puisque la famille Gave a la plupart de ses activités, et notamment sa société de conseil financier, dans l'ancien comptoir britannique. Donc on a appelé ça le clan un peu des Hongkongais, quand ils sont arrivés ici au Pays Basque. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient aussi venus d'aussi loin, bon, fait qu'on a souvent reproché à ce duo Gave-Aldiger d'être étranger au Pays Basque. Bon, Jean-Baptiste Aldiger est du Sud-Ouest, hein, je crois qu'il est plutôt hollandais, mais...
Alors, comment se passent les premiers mois de la direction à la tête du BO ?
Au départ, ça se passe plutôt bien, puisqu'ils ont remis de l'argent, le club est sauvé. Quand des nouveaux actionnaires arrivent, un nouveau président arrive, on se dit toujours que les nouveaux projets vont suivre, que le club va grandir sous une nouvelle impulsion. Donc, il n'y avait pas forcément de réticence, surtout qu'ils l'ont sauvé. Donc, les supporters étaient plutôt contents, la municipalité également. Et puis, les relations vont, au fil du temps, se tendre, notamment avec les journalistes.
Oui, c'est ça, parce que nous sommes là aussi pour parler des conditions d'exercice des journalistes. Quelles sont les relations d'Aldiger et Gave avec nos consoeurs et nos confrères ?
Elle est plutôt mauvaise, mécontente de certains articles, en particulier sur les tendances politiques, justement, de la famille Gave. Jean-Baptiste Aldiger a été jusqu'à donc interdire de stade la presse, et notamment nos confrères de Sud-Ouest. Il y a un match aussi lors duquel il a distribué des casquettes rouges avec écrit « Make Journalist Great Again ». Donc ces casquettes font directement référence au slogan de Donald Trump, mais on peut y voir quand même du média bashing. Ça a été assez compliqué d'assister aux conférences de presse, d'avoir accès aux joueurs, assez compliqué d'avoir accès aussi aux dirigeants. Du coup, la situation s'est vite envenimée. Et également, M. Aldiger a pensé à un certain moment qu'il y avait un partenariat conclu entre le Sud-Ouest et son club, et que ce partenariat était là pour que le BO parle en bien de son club. Mais en fait, c'est un partenariat, un contrat uniquement publicitaire, comme ça se fait beaucoup entre les clubs sportifs et les titres de presse. C'est-à-dire que vous avez au fond du stade écrit Sud-Ouest en gros, et voilà, Sud-Ouest, en échange, va relater le quotidien du BO, faire un article à chaque match, avant, après. Mais ça n'engage en rien le journaliste à écrire en bien sur le BO. S'ils font un mauvais match, on ne va pas dire ils ont été formidables ou ils ont été super. Donc là-dessus, il y a une mésentente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'a pas été encore tranché, mais au mois de janvier, un procès s'est déroulé lors duquel le quotidien régional, donc Sud-Ouest, accuse Jean-Baptiste Aldiger de diffamation dans une fameuse lettre ouverte où il explique, voilà, selon lui, qu'est-ce que c'est que ce partenariat, mais il n'a pas très bien compris, je crois.
Alors, bien au-delà de la presse, les relations vont être très tendues avec beaucoup d'autres interlocuteurs de la direction du BO. La situation sportive, mais surtout financière, ne va pas s'arranger, loin de là. Tout cela, nous l'aborderons dans le deuxième épisode, consacré au moment difficile que vit le Biarritz Olympique, qui sera diffusé demain. Merci beaucoup, Willy Roux, de nous avoir accueillis dans les locaux de Média Basque. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.